Bonsoir. Merci Bruno pour ces mots d'introduction si amicaux. Je suis toujours très heureux de vous retrouver et de retrouver le Collège supérieur. Ce n'est pas facile de parler d'un livre que l'on vient d'écrire. Je lisais récemment l'interview d'un romancier portugais qui disait « Je ne peux pas parler de ce livre, je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas lu. » Et effectivement, le rapport à l'écrit est très différent. Le rapport à ce que l'on a écrit est très différent du rapport du lecteur. Donc, ce que je vais faire, ce n'est pas résumer le livre, c'est prendre un certain nombre de points concernant Montaigne, en oubliant, si j'ose dire, le livre que j'ai écrit, pour attirer l'attention sur, quelques éléments d'orientation indispensables, je crois, pour saisir Montaigne de la bonne façon. Comme vous le savez, Montaigne est peut-être l'auteur ancien le plus populaire qui soit depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un peu obsédant, non seulement le nombre de livres sur Montaigne qui paraissent, j'en ai même ajouté un, le nombre d'hebdomadaires, de revues qui consacrent très régulièrement des numéros spéciaux à Montaigne. Et en même temps, si vous avez un peu suivi, ne serait-ce que quelques numéros de revues, Le Nouvel Observateur, Philosophie Magazine, que sais-je, ce Montaigne qui est tellement populaire, autour de Montaigne, il n'y a pas vraiment de débat. On ne peut pas dire que, autour de Montaigne, se soit noué des débats intellectuels. La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que c'était un type formidable. Bon, voilà. Ben, ce n'est pas suffisant, si j'ose dire, pour approcher un auteur de ce calibre. Alors, pourquoi Montaigne, au fond, en dépit de son énorme popularité, n'a pas donné naissance autour de son œuvre à de vrais débats intellectuels? Autour de Rousseau, il y a de grands débats intellectuels, des débats savants, mais qui débordent en quelque sorte dans le débat public. Autour de Montaigne, je crois, on peut dire que non. C'est que Montaigne, l'œuvre de Montaigne appartient à une catégorie d'œuvres qui sont très difficiles d'interprétation. Et je voudrais faire quelques remarques sur ce point pour commencer. Tous les livres ne présentent pas la même difficulté. Ils peuvent être très difficiles l'un et l'autre, deux livres peuvent être très difficiles l'un et l'autre, mais ce n'est pas la même difficulté. Kant, La critique de la raison pure, je crois que vous m'accorderez que c'est un livre difficile. Bon. Montaigne paraît un livre, si vous le comparez à Kant, extraordinairement, La critique de la raison pure, paraît un livre extrêmement facile. Quoi de plus plaisant que d'ouvrir les essais? Certes, l'accès est plus facile ou semble plus facile. En réalité, une œuvre comme celle de Montaigne, plus généralement les œuvres de cette époque, les œuvres d'avant le grand mouvement de l'imprimerie moderne, de l'éducation moderne, de l'école moderne et de l'université moderne, les œuvres de pensée obéissaient à des règles de construction, à des règles d'expression, à des règles rhétoriques, à un art d'écrire dont nous avons perdu la notion. Et donc, lorsque nous prenons un livre comme Les Essais de Montaigne, nous sommes exposés à, si j'ose dire, le livre comme il ne faut pas le lire, ou plutôt à ne pas savoir comment il faut le lire. Comment, en général, prend-on ce genre d'œuvre de pensée, Montaigne en l'occurrence, mais on pourrait dire la même chose pour bien d'autres œuvres de pensée? Il y a, je crois, deux réductions à éviter, ou deux écueils à éviter. Il y a l'erreur, si l'on peut dire, propre à l'homme moderne, irrésistible pour le public moderne, c'est d'évaluer les auteurs par leur proximité à la modernité. Et alors, le commentaire que l'on entend, et particulièrement à propos de Montaigne, est L'intitulé de mon propos ce soir vous donnera l'idée que je suis sur cette ligne. L'appréciation la plus courante, c'est à quel point Montaigne est moderne. Il est déjà comme nous. Cela, je dirais, c'est l'approche du lecteur courant, l'approche qui est orchestrée par la publicité faite autour de Montaigne. Mais à l'erreur du lecteur, à cette erreur du lecteur courant, j'allais dire non spécialiste, s'ajoute, si je peux dire, l'erreur du lecteur savant. Le lecteur savant fait le contraire du lecteur courant. Le lecteur courant s'approprie le texte de Montaigne et dit à quel point il est moderne. Le lecteur savant, au contraire, éloigne Montaigne de nous. Il dit, pour comprendre Montaigne, il faut comprendre le contexte historique de Montaigne. Il faut comprendre la Renaissance, en tout cas l'humanisme. Il faut comprendre la France des guerres de religion. Et progressivement, l'œuvre de Montaigne devient alors, comme l'œuvre de Machiavel ou l'œuvre d'un autre auteur, je ne sais pas, de Pascal, de Descartes, l'œuvre devient alors l'expression des circonstances. Et voyez comment l'interprétation des œuvres de pensée aussi entre deux excès, un excès d'appropriation, à quel point Montaigne est proche de nous, et un excès d'éloignement, de réduction de Montaigne aux circonstances fort différentes dans lesquelles il a vécu. Et si vous lisez, encore une fois, ce que l'on dit aujourd'hui de Montaigne, eh bien, les uns disent « c'est quelqu'un comme nous », les spécialistes disent « Montaigne, il faut, pour le comprendre, se rendre compte que ce fut un magistrat catholique, monarchiste, dans un temps de guerre de religion ». Comment réconcilier ces deux figures aussi incompatibles qui font de Montaigne non pas quelqu'un qui est proche de nous, non pas quelqu'un qui est loin de nous, mais une énigme? Partons de cette question du contexte. Montaigne, expression de l'humanisme. Pour que cette définition ait en quelque sorte un sens clair, il faudrait que nous sachions d'ores et déjà, ou avant de qualifier Montaigne ainsi, ce qu'est l'humanisme. Or, une bonne partie de ce que nous pensons qu'est l'humanisme, eh bien, nous le tirons de notre lecture de Montaigne. Et donc, nous comprenons l'humanisme par Montaigne et Montaigne par l'humanisme. Nous sommes dans un cercle. La seule condition pour échapper à ces difficultés, en tout cas pour avoir une chance d'y échapper, c'est de prendre au sérieux le texte de Montaigne, de considérer que c'est le texte lui-même qui nous donne tous les éléments indispensables à sa compréhension. Les éléments indispensables à la compréhension de son intention et les éléments indispensables à l'évaluation du contexte dans lequel l'auteur a travaillé, parce que la manière dont le contexte se réfléchit dans le texte, seul le texte peut nous en donner la clé. Donc, la lecture de Montaigne réclame un type d'attention auquel on n'est pas préparé. On n'est pas préparé parce que, encore une fois, on attend de Montaigne cette proximité de plein pied, en quelque sorte, que l'on est supposé avoir avec quelqu'un si sympathique et tellement proche de nous. Et donc, lorsque nous lisons Montaigne, il faut accepter, si j'ose dire, son ignorance. Accepter de se laisser guider par lui. Accepter de dire et de penser, je ne sais pas où il veut en venir. Je ne sais pas, au fond, ce qu'il pense. Et je dois dire que, pour moi, je n'avais pas du tout prévu de faire un livre sur Montaigne. Il ne faisait pas partie des auteurs ou des perspectives d'études que j'ai eues au cours de mon travail. Et si je m'y suis tellement intéressé, si j'ai vécu tant d'années avec lui, c'est parce que, précisément, je n'y comprenais rien. C'est parce que, d'une part, il me captivait, comme tout le monde, extraordinairement, par le caractère si direct de sa parole. Et en même temps, je ne parvenais pas à donner sens cohérent à tout ce qu'il disait. Je ne comprenais pas quelle était son intention. Je ne saisissais pas les règles de son art d'écrire. Or, encore une fois, les œuvres de cette époque, comme en général les œuvres antérieures à l'époque moderne, suivent un art d'écrire qui a des règles, qui pour une part suit des règles générales communes à tous les auteurs, mais aussi ces règles sont modulées par chaque auteur à sa manière. Et il faut voir comment chaque auteur, en l'occurrence Montaigne ici, module, applique ces règles et comment il nous les propose. Pourquoi l'art d'écrire de ces auteurs? Pourquoi cette parole qui paraît être immédiate, directe, franche et sincère, plénière, pourquoi cette parole est-elle en réalité organisée par un art d'écrire d'une extrême complexité? Pourquoi Montaigne ne nous parle-t-il pas de cœur à cœur comme il semble nous parler de cœur à cœur? Pourquoi cette impression de parfaite sincérité est-elle trop? Les règles de l'art d'écrire ancien tenaient compte d'une discipline de parole qui, pour les gens de cette époque, et pour les gens des siècles pré-modernes, des siècles d'avant le libéralisme auquel faisait allusion Bruno, l'art d'écrire ancien tenait compte d'une discipline de parole qui allait de soi. Pour nous, ce qui va de soi, c'est la liberté. Pour nous, ce qui est premier, c'est la liberté de parole, une évidence. Pour les anciens, ce qui va de soi, ce qui est premier, c'est la loi. Pour les anciens, c'est la loi qui est première par rapport à la liberté. Et la liberté dont on peut jouir, c'est celle que vous laisse éventuellement la loi. Et donc, pour les anciens, pour Montaigne comme pour les autres, il est normal que la parole que l'on tient en public, et publier un livre, c'est publier une parole publique, il est normal que la parole que l'on tient en public tienne compte de la loi. La loi du temps de Montaigne est une loi monarchique et catholique. La parole de Montaigne, les écrits de Montaigne, tiennent compte de la loi monarchique et catholique. Et donc, pour une part, il écrit comme un excellent sujet du roi et comme un excellent fils de l'Église catholique. Parce que ce qui est premier à ces époques, encore une fois, à toutes les époques qui ont précédé la liberté moderne, puisque ce qui est premier, c'est la loi, loi politique et religieuse, loi inséparablement politique et religieuse, éventuellement loi coutumière, la légitimité d'une parole détachée de la loi est extrêmement fragile, est extrêmement contestable. Il y a bien sûr des paroles, des écrits de toutes sortes, au XVIe, au XVIIe siècle, au XVe, à la fois écrits religieux, écrits juridiques, ou alors écrits techniques, un manuel de cuisine par exemple. Mais ces écrits, si j'ose dire, tirent leur autorité de la loi ou de la fonction publique qu'ils remplissent. Mais une parole qui n'est ni parole d'église, ni parole d'État, ni parole de fonction technique en quelque sorte, ni parole d'atelier si je peux dire, une parole comme celle de Montaigne qui dit « Moi, Michel de Montaigne », quelle autorité peut-elle avoir? Comment l'écouter? Prendre la parole comme ça et dire « Je vais vous dire qui je suis », c'est un geste absolument exorbitant, soit scandaleux, soit ridicule, soit un mélange de tout cela. Donc, les livres anciens, quand ils ne sont pas des livres qui distribuent une version ou une autre de la parole publique, religieuse, politique, juridique, technique, les livres anciens, quoi qu'ils disent d'autres, sont occupés à justifier leur propre parole. Et une grande partie de l'effort de Montaigne et de son art d'écrire consiste à expliquer et justifier que l'on écrive un livre aussi étonnant que le livre que Montaigne écrit. Justifié que page après page, Montaigne vous raconte les vicissitudes de sa digestion ou d'autres aspects de sa vie corporelle dans laquelle il n'est pas nécessaire d'entrer ce soir. Et donc, il faut, pour trouver le ton, si je peux dire, l'approche d'un livre comme les Essais, se rendre compte de l'énormité de l'opération politique et rhétorique à laquelle Montaigne se livre. Il s'agit non seulement de faire entendre une parole inouïe, mais de justifier cette parole inouïe devant un public qui va être conquis, mais qui, si cette parole n'était pas présentée avec l'art de Montaigne, rejetterait cette parole avec indignation et lui tournerait le dos. Nous avons beaucoup de peine à être attentifs à cet aspect, à cet art d'écrire. Nous sommes impatients de cet art. J'ai d'excellents amis avec qui je parle de Montaigne et qui me disent, qui écartent tout ce que je peux raconter là, en me disant, mais qu'est-ce que tu veux, moi, Montaigne? Il me parle immédiatement, je le comprends immédiatement, c'est comme mon voisin, je ne veux pas entendre parler de ton art d'écrire, ou de son art d'écrire. Donc, nous avons beaucoup de peine à être attentifs à cet aspect, nous sommes impatients de cet art, parce que, pour le dire d'un mot très rapide, pour nous, la légitimité de la littérature ne fait aucun doute. La légitimité de la littérature ne fait aucun doute. Cette légitimité a dû être conquise difficilement contre les autorités, et Montaigne est évidemment peut-être l'auteur qui a le plus contribué à faire accepter cette légitimité de la littérature, c'est-à-dire d'une parole sans autorité politique ou d'une parole qui ne puise son autorité qu'en elle-même, qui ne puise son autorité que dans l'auteur même de cette parole, qui n'a d'autre titre dans la société que d'être l'auteur de cette parole. Eh bien, l'art de Montaigne légitime de manière persuasive la parole nouvelle qu'il inaugure, que l'on peut appeler la parole littéraire ou la littérature. Alors, il faut que je me hâte un peu pour aller au plus important, je crois. Dans quel contexte spirituel Montaigne intervient? On peut appeler ça le contexte du XVIe siècle, si l'on veut, le contexte de la Réforme. L'expérience de cette époque, c'est que l'expérience du désordre de cette époque, c'est qu'il y a désormais une distance incompréhensible, insupportable, corruptrice entre les paroles et les actions. Le passage le plus fameux sur ce point, enfin un des passages les plus fameux, c'est la phrase de Montaigne dans le chapitre 15 du Prince, n'est-ce pas, et qui dit « Il y a un si grand écart, tanto discosto, un si grand écart entre la façon dont les hommes vivent et la façon dont ils devraient vivre, c'est-à-dire dont ils disent qu'ils devraient vivre, que celui qui, pour se conduire, suit la façon dont les gens disent qu'il faudrait vivre, il apprend à se perdre plutôt qu'à se sauver. » Donc, il y a un immense écart entre les paroles et les actions. Les paroles qui font autorité sont complètement divorcées des actions que les hommes conduisent. Quelles paroles? Eh bien, bien sûr, les paroles chrétiennes. Aimez vos ennemis. Ce siècle connaît les guerres de religion les plus effroyables. Se faire eunuque pour le royaume des cieux. Dans aucune société, cela n'a paru aisé à accomplir. Et donc il y a une immense distance entre les paroles et les actions. Mais cette distance ne concerne pas simplement les paroles chrétiennes, mais aussi les paroles païennes. Aux autorités chrétiennes s'ajoutent les autorités païennes, les Grecs et les Romains, les grands hommes, les héros des Grecs et des Romains. Aussi important que l'Évangile, et plus important pour Montaigne et Plutarque, les vies des hommes illustres, vies des illustres Grecs et Romains. Bref, les saints chrétiens et les héros païens nous proposent des vies admirables, mais parfaitement inimitables. On ne peut pas vivre comme eux, et en plus, dit Montaigne, on n'en a pas envie. Vie impossible, ou alors menteuse, trompeuse. Vous connaissez la phrase de Montaigne, tout à fait à la fin des Essais, où il dit « Entre nous, ce sont choses que j'ai toujours vues de singulier accord, les opinions supercélestes et les mœurs souterraines. Opinions supercélestes, mœurs souterraines. Les hommes se font des idées supercélestes, présentent d'eux-mêmes une image supercéleste. Leur façon de vivre est plutôt souterraine. En même temps, ce désir d'aller vers le haut n'est pas simplement vide, en quelque sorte. La nature humaine a besoin de regarder vers le haut. Il s'agit, et c'est une des grandes démarches de Montaigne, de parvenir à une admiration sans désir d'imitation. Parce que l'imitation, le désir d'imiter des vies impossibles à imiter, conduit au mensonge, à l'imposture et à la corruption. Tel est, me semble-t-il, le contexte, la question principale qui résume le contexte dans lequel Montaigne intervient, si je peux dire. Les paroles et les actions sont démanchées, dénouées. Plus personne ne sait comment, désormais, rattacher les paroles aux actions. Et la tâche de ce siècle, ce sera de renouer de façon inédite les paroles aux actions et les actions aux paroles. Juste parenthèse, c'est le siècle de la réforme. Ce siècle commence par la réforme. Et qu'est-ce que la réforme, sinon un effort pour rattacher beaucoup plus étroitement la parole de Dieu à la vie religieuse et délivrer cette parole de toutes les médiations qui sont autant, aux yeux du moins des réformateurs, toutes les médiations, la médiation ecclésiale, la médiation du latin, qui sont autant d'obstacles entre la parole et le chrétien. Mais ce qui est vrai de la réforme, cet effort pour rattacher plus étroitement, plus intimement la parole aux actions et les actions aux paroles, c'est un effort qui est conduit aussi dans l'espace que nous dirions laïque, c'est d'ailleurs un terme de Montaigne, et c'est Montaigne qui, dans l'espace laïque, conduit cet effort. Quatrième point, je n'ai pas annoncé les trois premiers, je crois, donc vous devez me faire confiance, d'esquisser le problème de l'époque, si je peux dire. La grande question morale, spirituelle du XVIe siècle, comment Montaigne l'aborde-t-il et comment Montaigne voit-il ce qu'on peut appeler la tâche humaine, en général, la tâche humaine. Ou alors, quel est le problème humain et comment doit-il y répondre, l'homme doit-il y répondre? Qu'est-ce que nous avons à faire en ce monde, en quelque sorte? Il y a, selon Montaigne, une tendance humaine qui domine la vie des hommes, une tendance qui est une maladie, la maladie humaine, c'est de vouloir, comme dit Montaigne, échapper à l'homme. Le vice humain, c'est ce qu'il appelle le cuidé, d'où vient notre outrecuidance, le cuidé ou la présomption, l'orgueil, si vous voulez. L'espèce humaine a cette caractéristique qui la distingue, n'est-ce pas ? C'est de vouloir échapper à son état, à sa condition, pour se revêtir d'une condition supérieure, de préférence divine. La maladie humaine, c'est donc de vouloir échapper à l'homme. Alors, cette maladie est corruptrice, et elle est corruptrice parce que l'impossibilité d'accéder, de parvenir à cette vie supercéleste, que ce soit la vie des saints ou la vie des héros, a pour conséquence que nous méprisons notre être. Nous méprisons notre être. D'un côté, voilà le nœud humain, la maladie humaine, n'est-ce pas ? C'est que nous nous faisons de nous une idée sublime, dont nous voyons bien qu'elles ne correspondent pas vraiment à l'original, et donc tout en nous faisant de nous-mêmes une idée sublime que nous orchestrons religieusement, philosophiquement, politiquement, nous méprisons notre être qui ne correspond pas à cette idée sublime. Donc la maladie des hommes, c'est de se donner des commandements qu'ils ne peuvent pas remplir, auxquels ils ne peuvent pas obéir. Et Montaigne a à ce propos une formule qui est très impressionnante et qui, d'une certaine façon, la critique moderne de la moralité ne cessera d'orchestrer, d'approfondir, de travailler, jusqu'à Nietzsche au moins, et peut-être au-delà. Montaigne dit à peu près, nous nous ordonnons d'être nécessairement en faute. Nous nous ordonnons d'être nécessairement en faute. Parole qui, si j'ose dire, contient des mots de réflexion et qui, en tout cas, capture, saisit d'une façon extraordinairement synthétique ce qu'on peut appeler le problème de la moralité. Et donc, l'homme en proie à cette maladie, les hommes en proie à cette maladie vont vivre dans ce va-et-vient ruineux entre la présomption et le mépris de soi. Et toute la tâche de Montaigne est donc de plaider, d'expliquer, d'exemplifier un effort constant pour ne pas quitter ce plan de l'homme. Pour ne pas quitter ce plan de l'homme, pour ne pas se laisser entraîner, aliéner, par les vies supercélestes. Les anciens et les chrétiens partagent l'ambition d'une vie supercéleste dans des registres différents. Et le philosophe, pour Socrate, Platon, Aristote, il quitte le plan de l'être humain. La vie contemplative, Aristote est très explicite sur ce point, la vie contemplative, c'est pas une vie qui correspond à la nature humaine. C'est une vie déjà divine. La vie contemplative, la vie du philosophe, c'est une vie selon l'élément divin de la nature humaine pour les quelques êtres de l'espèce humaine qui ont en eux cet élément assez vigoureux. Donc les chrétiens et les philosophes anciens donnent à l'humanité une tâche, effectivement, qui ultimement consiste à dépasser l'homme. Eh bien, Montaigne se donne une tâche opposée. Au lieu de nous encourager à monter, il construit tout un dispositif de cordes pour nous retenir. Pour nous retenir de quitter ce plan de l'homme où seulement nous pouvons à la fois trouver et le bonheur et la vertu qui correspond à notre nature. Et c'est le sens de cette formule tellement citée, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Le sens de cette formule n'est pas, je dirais, dans une sorte de préparation d'une perspective démocratique sur la vie humaine, mais dans la critique des philosophies ou des religions qui encouragent à viser un point au-dessus du plan de l'humanité. Et il faut lire cette phrase du chapitre 2 du livre 3, avec une phrase du dernier chapitre qui l'explique ou qui l'explicite. La vie de César n'a point plus d'exemple que la nôtre pour nous. Et empereur et populaire, vie d'empereur ou vie du peuple, c'est toujours une vie que tous accidents humains regardent. Il n'y a pas de vie supercéleste. Il n'y a pas de vie héroïque, il n'y a pas de vie d'empereur qui soit essentiellement distincte des vies populaires. toutes les vies, non pas que ce n'est pas que tous les hommes soient égaux, Montaigne passe son temps à se poser la question, quels sont les plus grands hommes? Est-ce que c'est César? Est-ce que c'est César? Est-ce que c'est Épaminondas? Est-ce que c'est Socrate? Il est dans l'admiration et la comparaison admirative. Mais ce qu'il affirme à rebours de ce mouvement de l'admiration, c'est que toutes les vies sont également humaines. Il y a une différence en dire tous les hommes sont égaux, qui est une chose qui n'intéresse pas à Montaigne, et toutes les vies sont également humaines. Toutes les vies sont également humaines parce que tous les accidents humains les ruinent. Il ne vous a pas échappé que ce va-et-vient entre la présomption, le désir d'une vie supercéleste et la constatation d'une vie qui est moins que céleste, ce va-et-vient que Montaigne juge corrupteur et ruineux, c'est le dispositif même de la pénitence chrétienne. Un des ressorts des essais, un des ressorts les plus constants des essais, c'est la critique à la fois théorique et pratique, par l'exemple que Montaigne donne de lui-même, théorique par ce qu'il dit sur l'homme en général, et pratique par l'exemple que Montaigne donne de lui-même. Un des ressorts des essais, c'est la critique de la posture pénitentielle, c'est la critique de la pénitence. Je pourrais développer ce point. L'essentiel peut être dit en quelques mots. Pour Montaigne, au fond, la pénitence est contradictoire. La pénitence est contradictoire. Il le dit dans ces termes. Il le dit en s'adressant aux pénitents. Il lui dit, si vous pensiez, je ne cite pas exactement, mais l'idée est celle-là, je résume, si vous pensiez sincèrement, comme vous le dites, avec parfois de grandes manifestations de piété, si vous pensiez sincèrement que votre conduite offense Dieu, vous vous corrigeriez tout de suite. Au lieu de cela, vous confessez sans cesse les mêmes péchés invétérés. Bon. Critique théorique, mais aussi critique en acte. Montaigne se présente comme un homme qui ne se repent pas. Comme un homme qui ne se repent de rien. Montaigne n'ignore pas que s'il y a un livre qui ressemble au sien dans les siècles passés, d'habitude, enfin pour l'essentiel, il explique que son livre est le seul de son espèce, qu'il n'y en a pas d'autre. Et de fait, je crois qu'il a raison. Il n'en avait pas encore de livre qui lui ressemble là. Mais enfin, il y a un livre qui pouvait lui ressembler, un livre dans lequel un auteur dit « je » parle de sa vie, de ce qu'il a fait, et se repent de ses fautes. Et c'est un livre, un auteur d'une extraordinaire autorité dans le monde chrétien, et c'est évidemment Augustin, saint Augustin. Et pour une part, les confessions d'Augustin sont les pénitences d'Augustin, ou la pénitence d'Augustin. Eh bien, sans le nommer, bien sûr, Montaigne oppose à Augustin qui se répand la parole de Michel de Montaigne qui, lui, ne se repent pas et explique pourquoi. Il donne vie, les essais de Montaigne donnent vie à un rapport à soi non pénitentiel. Un rapport à soi non pénitentiel à un dire sur soi ou de soi non pénitentiel. Et il est clair que ceci est une innovation considérable, puisque il était interdit au sujet humain de parler de lui-même dans l'espace public, ça n'avait pas été autorisé par la loi. La seule parole que le « je » pouvait dire, c'est « je confesse mes péchés ». La seule parole publique, public, en tout cas, autorisé, où le « je » pouvait se prononcer avec sécurité, c'était évidemment la parole du pénitent. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Eh bien, Montaigne confesse, publie plutôt, qu'il ne se confesse pas, qu'il n'est pas pénitent, qu'il ne comprend pas au fond ce que voudrait dire la pénitence pour lui. Et donc, il produit un dire sur soi, un dire de soi non pénitentiel, ce dire sur soi, ce dire de soi qui, bien sûr, aura ses prolongements infinis par lesquels nous sommes encore fort occupés. Donc, la tâche humaine, ce que j'appelais la tâche humaine, ce n'est pas de devenir meilleur à proprement parler, parce que meilleur, le désir de devenir meilleur nous entraîne sur ce, vers ce cuidé, cette présomption dont j'ai parlé. Donc la tâche humaine n'est pas de devenir meilleur, de rejoindre en fait, vraiment, enfin, avec grands efforts, une meilleure idée ou image ou idéal de soi. La tâche humaine, c'est de se rejoindre soi-même. Non pas de partir vers la forme idéale, mais de revenir vers ce que Montaigne appelle sa maîtresse forme, la forme naïve que l'on est si constamment et si fortement tenté de quitter. Une des thèses de Montaigne, une des thèses les plus... qui en fait aura en effet beaucoup de suite, mais qui a aussi un long pédigré, puisqu'elle remonte au moins aux stoïciens et à Cicéron, c'est que les êtres humains ont bien sûr une nature humaine commune, mais aussi une nature individuelle propre, une nature propre. Et la thèse de Montaigne, c'est qu'au fond, on ne peut rien faire de significatif, de vraiment utile, de vraiment bon, si on quitte, si on s'efforce de lutter contre ou de quitter cette forme naturelle que chacun d'entre nous possède, ou plutôt que chacun d'entre nous est. EST. Et donc, au lieu que il s'agirait de se quitter soi-même pour devenir meilleur, au contraire, Montaigne, retournant en quelque sorte l'objection, nous donne pour, sinon commandement, du moins veut nous persuader de revenir vers nous-mêmes. De revenir vers notre forme naïve pour l'habiter tranquillement et avec assurance. Et pour parvenir à ce résultat, la voie la plus sûre pour parvenir à soi, c'est de parvenir à la vérité sur soi. Et le chemin le plus sûr vers une telle vérité, le chemin le plus sûr pour parvenir à la vérité sur soi, c'est d'essayer de se dire tel que l'on est effectivement. L'exercice spirituel ne consiste plus à dire, pardonnez-moi, ne consiste plus à devenir meilleur que ce que l'on était. L'exercice spirituel consiste à dire ce que l'on est effectivement. Il y a dans cette franchise, selon Montaigne, la grande ressource correctrice pour une humanité qui a abandonné les idées supercélestes. La tâche humaine, dans cette perspective, désormais, est moins de faire quelque chose de grand, de beau, de noble, mais plutôt de se dire. Et le centre, dès lors, on voit que le centre de gravité, si je peux dire, de la vie moderne tend à basculer vers la parole, dans la parole, et à quitter le domaine de l'action. Je pourrais revenir peut-être sur cette question s'il y a des questions précisément, mais je voudrais juste, pour terminer dans un délai convenable, je voudrais ajouter quelque chose. C'est le cinquième point, et le dernier. La parole sur soi, la libre parole sur soi, qu'est-ce qu'elle décrit ? Qu'est-ce qu'elle décrit ? Qu'est-ce qu'on dit de soi ? La parole littéraire, le propre de la parole littéraire, c'est d'être délivré de la responsabilité de l'action. Et donc, que décrit la parole que Montaigne inaugure ? Non pas des actions, mais des états. On pourrait dire des dispositions passives. On, on souligne, bien sûr, je l'ai fait tout à l'heure, le fait que Montaigne développe beaucoup de... consacre beaucoup de pages à dire sur lui des choses que les gens bien élevés, normalement, taisaient. On dit, en particulier, les fonctions corporelles. Bien. Mais bien sûr, ce sont des humbles fonctions, et le fait qu'il, en quelque sorte, il ramène notre regard du ciel vers les corps, fait partie de sa démarche. Mais ce ne sont pas simplement des fonctions corporelles, c'est aussi, en général, et cela va très au-delà des fonctions corporelles, ce sont en général des dispositions passives. La littérature moderne, je pourrais multiplier les exemples, mais vous pourriez les multiplier, la littérature moderne explore la passivité. Et, en un certain sens, elle est d'autant plus moderne qu'elle explore des états plus passifs. On pourrait illustrer cela de bien des façons. Un exemple évidemment particulièrement parlant, si je peux dire, c'est « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». L'exploration du sommeil est vraiment, par Proust, une illustration virtuose de ce trait de la parole littéraire qui a chez Montaigne est développé de façon extrêmement soutenue, si je peux dire, et consciente. Je fais allusion simplement à un passage fameux du livre 6, du chapitre 6 du livre 2 de l'exercitation, où Montaigne raconte une chute de cheval. Il était parti à cheval, sur un petit cheval, près de chez lui, un grand roussin quand le cheval le renverse, et il s'évanouit, et toute la description est la description de cet évanouissement, des perceptions alors qu'il est transporté à moitié évanoui, et des perceptions, des sensations et des sentiments quand il revient à lui. Et de cette expérience, il tire une foule de leçons sur les approches de la mort et la connaissance que l'évanouissement nous donne des approches de la mort. Voyez que la parole chrétienne vous invite à opposer à la mort une âme active, n'est-ce pas, à se préparer activement à rencontrer son juge. Et la parole païenne invitée à opposer à la mort le courage du bon citoyen, du soldat, sinon du héros. La parole de Montaigne nous prépare à la mort en envoyant l'analogie, en quelque sorte, les approches, c'est le terme qu'il emploie, dans l'évanouissement qu'il décrit avec une précision clinique. Les états passifs paraissent à Montaigne plus riches d'enseignements que les actions éveillées, si je peux dire, actives, si je peux, ce pléonasme. Donc, je termine, j'ai intitulé cet exposé Montaigne ou la parole moderne. On peut dire, et je reviens au point de départ de mon propos, moi aussi je dis que Montaigne est moderne ou prépare la modernité, bien sûr, mais encore faut-il savoir exactement où loger cette innovation de Montaigne. Il institue la parole moderne, on peut dire cela, je crois, celle qui, au lieu de délibérer de l'action et d'en juger, c'était le rôle principal de la parole jusque-là, si j'ose dire, avant la littérature, délibérer de l'action et en juger, eh bien, au lieu de cela, la parole que Montaigne institue s'efforce de décrire les états passifs. comme si, et encore une fois, cela sera exploré par bien des auteurs après lui, mais il est le premier, et c'est chez lui peut-être qu'il est le plus éclairant de suivre les premières démarches, comme s'il y avait, et je répète ce que j'ai dit à l'instant, comme s'il y avait une vérité plus exacte, plus intime, en tout cas plus intéressante, et c'est aujourd'hui notre avis, en tout cas plus intéressante dans le sentir de la vie que dans l'agir de la vie.